Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de commencer. J'ai mis mon minuteur hein, pour être dans le temps. Hop, je vais juste prendre ça. Alors du coup, je me présente, Fériel Ouest, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans l'Eure, un département très lointain d'ici, qui recherche beaucoup de psychologues pour les gens qui cherchent du travail. Je suis doctorante à l'Université de Caen depuis bientôt 4 ans. Je travaille sur la dynamique auteur-victime dans le cadre des violences conjugales. Je m'intéresse plus particulièrement aux liens et aux mécanismes en place. En premier lieu, je commence juste à rappeler un chiffre, mais les étudiants l'ont rappelé tout à l'heure. Une femme, tous les 3 jours, décède en France dans le cadre des violences conjugales. C'est un chiffre qui est relativement important, relativement questionnant, parce que finalement, il est stable malgré toutes les mesures et tout ce qui peut se mettre en place. Quand on parle de violences conjugales, de quoi est-ce qu'on parle? Très fréquemment, on a en tête la notion de violences faites aux femmes. Je rappelle, j'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec le président d'SOS Hommes Battus. Je rappelle qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, même si effectivement, on entend plus parler de violences faites aux femmes. Quand on parle des violences conjugales, on a aussi en tête le Grenelle qui a eu lieu en 2019 avec différentes mesures qui ont pu être mises en place, comme davantage de places d'hébergement pour les victimes de violences conjugales, comme le dépôt de plainte systématique au sein des hôpitaux, comme le statut de victime et non plus de témoin pour les enfants, et les collègues en parleront tout à l'heure. On a aussi en tête la notion d'emprise, donc l'emprise, comme le docteur Salmona l'évoque, et je l'expliciterai un peu plus tard, on est sur un système de colonisation psychique. Il y a aussi la notion de contrôle coercitif qui est très, très régulièrement évoquée. Et on a aussi en tête la notion des morts violentes au sein du couple. Donc, tous les ans, le ministère de l'Intérieur, alors je n'ai pas les mêmes chiffres du coup que vous avez présentés, tous les ans, le ministère de l'Intérieur sort une étude qui est assez intéressante à lire parce qu'elle décrit en fait les modes opératoires, le nombre de décès qu'il y a. Et c'est un chiffre qui fait pas mal débat parce qu'il est rarement le même que celui qui est relevé par les associations. Déjà, on va déconstruire un petit peu cette notion-là. Déjà, quand on parle de violence conjugale, il y a la notion de couple. Un couple, c'est quoi? Le dictionnaire, il le définit comme étant au moins 2 personnes, de façon officielle, 2 personnes, qui sont unies par le mariage, liées par un pacte ou vivant en concubinage. 2 personnes qui seraient animées par un sentiment, une même volonté, des intérêts, des affinités, des choses en commun en tout cas, avec des notions de complémentarité, de fidélité, de dépendance, de communication, de réciprocité, etc. Quand on parle de violence, la violence c'est quoi? C'est traité par la force, porter atteinte, dévaster, profaner, outrager. Et moi, la violence, je vous invite à la penser sous 3 dimensions. Il y a la dimension pénale, tout à l'heure vos collègues ont évoqué le nombre de dépôts de plaintes qui était croissant, mais le code pénal, il n'est pas fait pour faire... Il est fait pour le corps social, c'est-à-dire qu'il est fait pour réparer un préjudice, à quel point ce qui m'est arrivé porte atteinte à la société et non pas me porte atteinte à moi ou à l'auteur. Donc il y a la dimension pénale de ce que c'est qu'une violence entre conjoints. Il y a la violence au sens social du terme et sociétal. Effectivement, vos collègues l'ont rappelé, il y a actuellement beaucoup de mouvements, notamment MeToo et d'autres associations qui font part de choses qui étaient intolérables, enfin qui étaient tolérables il y a quelques années de ça. Vous avez vu la vidéo de Lina. Aujourd'hui, si on va interroger des personnes dans la rue, je ne sais pas si on aurait le même discours ou pas. Et il y a la dimension de la violence au sens subjectif du terme. On a tous une façon de penser la violence par rapport au vécu qu'on a pu avoir et par rapport à jusqu'où est-ce que l'autre peut aller pour atteindre ma limite. L'OMS, elle définit la violence, je vous laisse lire parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout faire. C'est un comportement au sein d'une relation intime, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les violences conjugales, c'est avant tout un processus. C'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement, sous la forme d'un cycle que je vais expliciter un petit peu plus loin, qui va prendre différentes formes. Et la particularité des violences conjugales, c'est qu'elles se passent durant, mais aussi après la relation. Ce qui laisse entendre que c'est le lien, finalement, entre les 2 personnes qui générerait cette violence. Et ça se passe dans tous les couples, hétéros ou homosexuels. On n'a pas beaucoup de chiffres. Il y a eu une revue de littérature que je vous invite à aller chercher sur le site de M. Friedman, qui est doctorant aussi, et qui, du coup, a fait une revue de littérature anglo-saxonne avec les différents chiffres. Et je trouve que c'est assez pertinent et intéressant d'aller regarder aussi. Les différentes formes de violence. Alors, si la vidéo, elle s'enclenche pendant que je parle, je m'arrêterai de parler. Alors, on a les violences verbales, nous avons les violences psychologiques, et je pense que la vidéo va commencer là. C'est une petite vidéo que j'ai trouvée, que je trouve assez sympa à regarder, sur les violences économiques. Donc, il y a les violences physiques.
Pour leur couple, ils ont choisi iMoney.
Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alertée.
C'est vraiment pratique. Avec ça,
C'est moi qui décide des achats de ma nana.
Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top.
Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas.
Là, c'est pour une pizza pour les gamins.
Je peux transférer toutes ses allocations direct sur mon compte.
Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus.
Ah mais y a pas moyen, je refuse.
Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non?
Va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement.
De toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi.
Aïmoni n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente.
Je trouve la vidéo assez sympathique parce que pour le coup, Aïmoni évidemment n'existe pas, mais les violences économiques sont parfois oubliées parce qu'elles sont peut-être moins visibles. On a aussi les violences sexuelles au sein du couple, les violences matérielles. Les violences matérielles, ça va être le fait de m'en prendre à des objets qui vous appartiennent, comme casser votre ordinateur ou casser des objets qui, affectivement, ont une importance pour vous. Et les violences administratives, ce qui se passe parfois dans des couples où il y a des personnes en situation irrégulière, ça va être de prévenir, par exemple, la préfecture qu'on veut se séparer, etc., ou de garder certains documents. Et les violences aussi spirituelles, c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus. Les violences spirituelles, c'est le fait que mon partenaire m'interdise, se moque ou me contraint à avoir les mêmes... soit la même religion, soit des choses autour de mes croyances. Si je crois dans les faits, j'ai le droit de croire dans les faits, mon partenaire n'a pas influé là-dessus. C'est important de distinguer le conflit de la violence. On se dispute tous, le conflit c'est quelque chose qui est assez humain, c'est deux points de vue qui vont venir s'opposer dans un couple, et finalement on est dans un rapport d'égalité. Je ne suis pas d'accord avec mon partenaire, mais j'ai le droit de penser ce que je veux, donc j'ai ma liberté de penser et mon autonomie dans le cadre du couple. Dans le cadre de la violence conjugale, ce qu'on lit, c'est que dans les violences, il s'agirait d'un rapport de domination d'un des partenaires sur l'autre et de prise de pouvoir. Donc, par les propos et les comportements que l'auteur va mettre en place, il tente de contrôler, voire de détruire sa partenaire. Un peu comme si l'agresseur allait englober sa victime. Le cycle de violence, et je vais aller très vite dessus parce que les collègues après en parlent aussi, le cycle des violences, il consiste en quatre phases très importantes, les phases de tension, de crise, de justification et la phase de lune de miel. Et il faut savoir que plus la relation est installée et moins finalement la phase de justification et lune de miel est nécessaire pour l'auteur. Le cycle des violences, c'est important de l'avoir dans sa petite boîte à outils de psy quand on rencontre des personnes victimes de violences. Les stratégies que va mettre en place l'auteur, vous avez vu, j'ai mis un joli prince charmant, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est Cendrillon, je ne suis pas sûre. Oui, c'est Cendrillon, ok. Donc le prince charmant de Cendrillon, vous voyez, finalement, on n'a pas forcément l'impression qu'il peut être auteur, et l'auteur va mettre en place plusieurs stratégies. Il va isoler sa victime sur le plan social, sur le plan géographique, il peut l'emmener vivre dans le département de l'Eure, par exemple, dans le fin fond du département de l'Eure. Il va l'isoler d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, etc. Il va y avoir un déferlement de violence qui va générer le phénomène de sidération que je vais expliciter dans quelques diapos. Il va recruter des alliés. Les alliés, ça peut être les enfants. Ça peut être que les enfants puissent dire où est maman, où est papa, qu'est-ce qu'il a fait, à qui il a parlé, etc. Mais ça peut aussi être les voisins qui vont entendre des choses et qui vont absolument rien en faire. Inversion de la culpabilité. Regarde ce que tu me fais faire. C'est à cause de toi si on en est arrivé là. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça, on l'entend beaucoup de la part des victimes où le mise en cause ou l'auteur évoque le fait que c'est la première fois que dans un couple, ça se passe pour lui. Et l'auteur va installer un climat de toute puissance et de peur. Tout ça, ça a nécessairement un impact sur la victime, hein, perte d'estime de soi, dévalorisation, la peur des représailles pour elle, pour les enfants. Les enfants, vous le verrez avec les collègues tout à l'heure, sont un outil et un enjeu majeur dans ces séparations. Une perte de confiance, la peur de ne pas être cru, parce que le prince charmant là, que je vous ai mis tout à l'heure, on n'a pas forcément envie de croire ou d'entendre qu'il peut être potentiellement auteur. Un sentiment de honte et de culpabilité qui est très présent. Une minimisation des violences. J'ai une victime qui m'a dit une fois, mon conjoint m'a mis dans le coffre, mais gentiment. Ça vous montre à quel point il y a une banalisation et une minimisation de ce qu'elle a pu subir, de l'angoisse, de l'isolement et un impact somatique assez important. On peut se poser la question de pourquoi la victime reste finalement et pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas. Donc il y a plusieurs facteurs, hein, économiques, le regard social, les enfants, la famille, les sentiments de culpabilisation, la minimisation des violences, le statut de non-victime, parce que ce n'est pas forcément très agréable de se dire et de prendre conscience qu'on est victime de violences, et la notion d'emprise. L'emprise, qu'est-ce que c'est? C'est un système de domination psychologique qui est mis en place par une personne sur une autre. C'est un processus de colonisation. Pour ceux qui ont vu le dessin animé Vice-versa, c'est un peu comme si dans ma tête, il y avait plein de petits auteurs, en fait. Mon conjoint, il est à l'intérieur de, ou ma conjointe, est à l'intérieur de ma tête, ce qui fait que tous mes faits et gestes, en fait, vont être systématiquement contrôlés et pensés par rapport à ses attentes et ses demandes à lui. Quand je dis lui, c'est l'auteur. Pourquoi est-ce que la victime accepte cette violence? Pourquoi est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle aime ça? C'est des questionnements qu'on peut parfois entendre. Est-ce qu'elle aime l'auteur? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand il y a un événement violent qui se produit? Si quelqu'un, là, dans la salle, arrive, là, ouvre la porte, enfin, la porte est déjà ouverte, et qu'il est armé, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un peu peur, quand même. Non? Quand il y a un événement violent, quand on est exposé à un stress intense, il y a un phénomène de sidération psychique qui va se mettre en place, et cette sidération, elle génère une tornade émotionnelle et hormonale. Donc, nous tous, dans la salle, même si là, on peut anticiper ce qu'on pourrait potentiellement faire ou ne pas faire, il y a une libération d'adrénaline et de cortisol très, très élevée dans le corps. Quand il y a trop d'adrénaline et trop de cortisol dans le corps, il y a un risque d'atteinte cardiovasculaire et on n'a pas trop envie de mourir cet après-midi dans l'amphi. Donc, pour le coup, on va mettre en place tous des mécanismes de sauvegarde qui vont faire disjoncter une partie du cerveau, ce qui va générer ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle. En gros, ce qui va se passer, c'est que le corps est là, la tête, elle se déconnecte, c'est un phénomène dissociatif. Et pour le coup, mon corps va être en mode pilote automatique. Mais néanmoins, il va enregistrer toutes les informations sur le plan sensoriel. C'est la seule coupe qui fait un peu intelligent que j'ai mis, le reste c'est des images rigolotes. Habituellement, les informations, elles vont se loger dans l'hippocampe, et là, les informations, elles restent dans l'amygdale. Je sais que c'est le lion qui est gentil, mais je ne connais pas le roi lion, donc j'ai juste mis un lion. Donc ça veut dire que systématiquement, quand il y a l'auteur, le mis en cause, le lion, le danger, l'amygdale en fait, nos différents amygdales, là, ils vont tous s'activer en disant « attention, il y a du danger ». Libération de cortisol, d'adrénaline, mécanisme de sauvegarde. Et plutôt que l'information s'enregistre dans notre hippocampe tranquillement comme habituellement avec la bonne émotion, et ben finalement, elle va rester en suspens au sein de l'amygdale. Et elle va se réactiver à chaque fois que sur le plan sensoriel, quelque chose va venir rappeler le mis en cause. Mais ça veut aussi dire que l'auteur a un pouvoir anesthésiant. En présence du mis en cause, ça veut dire que de façon quasi systématique, en tout cas, je vais être dissocié. Donc ça, c'est vraiment des notions qui me paraissent importantes d'avoir en tête. Mais moi, j'ai envie de vous inviter, et c'est mon objectif d'aujourd'hui sur les 8 minutes 08 qui me restent, de se décaler un petit peu. On a évoqué tout à l'heure ce qu'était qu'un couple, deux personnes unies par un pacte, etc., avec différentes notions. Mais peut-être qu'on peut aussi se dire qu'un couple, c'est autre chose. Un couple, on peut aussi le penser comme étant un cadre, une institution qui est normée par le corps social, par notre culture familiale. On a tous, en fonction des cultures, qu'elles soient familiales, sociales, etc., une image de ce que peut représenter un couple. Et quand on se met en couple avec quelqu'un, ben, y a un processus d'acculturation. Il faut que je puisse m'accommoder de la culture, finalement, de l'autre personne en face de moi. Et parfois, ça peut générer des ruptures de dogme, c'est-à-dire que l'idée que je me faisais de ce qu'était un couple, de ce qu'était ce que mon conjoint pouvait faire, etc., et ce que moi j'imaginais en tant que conjointe, en tant que compagne, et ben finalement, ça peut un peu se heurter au cadre conjugal de mon conjoint. Et moi, j'aime bien ce chiffre-là, le 1 plus 1 égale 6, parce que finalement, quand on se met en couple avec quelqu'un, on se met aussi en couple avec les fantômes de papa, maman, aussi. Donc en fait, vous êtes aussi en couple avec vos beaux-parents. On a évoqué tout à l'heure la notion de violence. Donc, je vous ai invité à la penser sous 3 dimensions, mais ce qui me semble important, en tout cas, d'avoir en tête, c'est d'avoir en tête que la violence, elle s'inscrit dans un lien. De ce fait-là, je m'interroge, dans le cadre de mon travail de recherche, sur est-ce qu'on parle de violence conjugale ou de conjugalité violente. Pourquoi de conjugalité violente? Parce que finalement, on peut aussi se dire que c'est le lien qui ferait potentiellement émerger la violence et pas l'inverse. C'est un lien qui est très particulier et on se rend compte que quand il y a une dégradation du lien, quand il y a une grossesse par exemple ou quand il y a une séparation, ce sont les deux moments les plus critiques, et je pense que les collègues le valideront, c'est vraiment les deux moments les plus critiques quand finalement il y a quelque chose qui vient bousculer ce lien. Les questionnements sur lesquels j'aimerais terminer, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas une résonance en fait? Est-ce que dans la construction de ce lien d'attachement, dans ce lien d'attachement romantique, donc au sein de ce couple, est-ce que finalement il n'y a pas une résonance d'enjeux qu'il y a pu avoir par le passif? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la résonance, les fantômes de papa-maman aussi du couple conjugal? Parce que vous le savez, dans une grande majorité des situations de violence conjugale, on se retrouve avec des personnes qui ont été victimes ou témoins de violences intrafamiliales. Est-ce que les deux protagonistes du couple peuvent sortir de ce lieu au détriment de leur survie psychique? Ce que je vois dans le cadre de ma recherche actuellement, c'est que finalement, il y a plusieurs couples, et d'un point de vue clinique, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je reçois beaucoup de victimes de violences conjugales au cabinet et dans les institutions dans lesquelles je travaille, et on se rend compte parfois que ce couple, c'est un peu comme un lieu d'enfermement. En sortir, c'est prendre le risque de mourir presque pour certaines victimes, où en fait, c'est pas possible de partir. Après, il y a des mouvements d'aller-retour, hein, et c'est effectivement quelque chose qui est relativement incompréhensible pour beaucoup d'un point de vue extérieur. Mais finalement, le lieu, c'est... Le couple, c'est un lieu de collusion, donc on va se rencontrer, avoir de la connivence, etc. Mais c'est aussi un lieu de collision, où finalement, il y a plusieurs choses qui vont venir se heurter. Et je terminerai sur une étude que j'ai trouvée dans la revue de littérature de M. Friedman, que je trouvais assez intéressante. C'est une étude de Hirschel et McCormack, qui est de 2021, qui a fait une étude, en fait, qui a comparé les arrestations dans le cadre des couples hétéro et homosexuels. Il s'est rendu compte, en fait, donc c'est une étude anglo-saxonne, hein, que dans les couples homosexuels, il y avait moins d'arrestations que dans les couples hétérosexuels, et que quand ils arrivaient, quand ils étaient arrêtés, ils arrêtent qui, à votre avis, dans un couple homosexuel ? Quand ils arrivent. Comment ils peuvent savoir qui est le mis en cause, qui est la victime ? Ils ne peuvent pas savoir, donc ils arrêtent les deux. Et je trouve ça assez intéressant, parce que pour le coup, on est actuellement dans un regard très hétéronormatif. Et pour le coup, dans cette étude-là, en tout cas, on se rend compte que quand les policiers ne savent pas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont figer la situation, donc mettre à l'abri finalement les deux personnes, et penser la dynamique, penser l'interaction, décortiquer. Et pour avoir travaillé quelques années en police, et travaillé encore actuellement avec les gendarmes notamment, on se rend compte en fait finalement que les situations, elles ne sont pas aussi binaires que ce qu'on peut entendre, etc. Mais que parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Et la grosse question sur laquelle j'aimerais terminer, c'est est-ce que finalement la typologie actuelle qu'on a des violences conjugales, est-ce qu'elle est suffisante ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de penser les violences conjugales que ce qu'on entend actuellement ? Je pense à l'emprise, au contrôle coercitif, etc. Parce que oui, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve avec une emprise très très importante de la part de l'auteur sur la victime. Il y a effectivement des situations avec un contrôle coercitif très important, mais ce n'est pas forcément toutes les situations de violences conjugales. Et il me reste 3 minutes. Merci de votre attention. Je rappelle juste avant que je suis encore en train de chercher, enfin, je suis en pleine méthodologie, donc n'hésitez pas si vous avez autour de vous des couples où un des deux estime qu'il y a de la violence dans son couple, que ça soit judiciarisé ou non. Je recherche des couples, je recrute actuellement des couples où il y a de la violence dans le cadre de ma recherche. Merci à vous.